Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver dans le cadre d'une nouvelle conversation. Et aujourd'hui, Daniel, eh bien, on va revenir à nos bonnes habitudes et parler de géopolitique, puisqu'on assiste en ce moment à un réel ballet diplomatique, hein, Daniel. On a vu qu'il y a eu la conférence de Munich où tous les hauts dirigeants étaient là. Le président américain Joe Biden s'est rendu pour une visite surprise à Kiev et puis il était à Varsovie. Vladimir Poutine, le président russe, a prononcé son discours à la nation à Moscou. Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, après Munich, il a été reçu au Kremlin par Poutine. Et puis, il ne faut pas oublier la visite du président iranien Ebrahim Raisi à Pékin. Alors, Daniel, quelle est la signification de toute cette agitation diplomatique?
Écoutez, je crois que la réponse globale est claire. Avec la guerre en Ukraine, quelque chose a changé. C'est pas seulement une guerre sur le continent européen, c'est tout d'un coup l'idée que toutes les grandes crises dont on parlait dans nos conversations, qui étaient jusqu'ici des crises séparées, d'un côté il y avait la crise entre les Américains et les Chinois, avec les Européens, Israël, les autres pays qui hésitaient. Il y avait de l'autre côté la crise entre la Russie et l'Ukraine. N'oubliez pas que l'invasion date pas de 2022, mais déjà de 2014. Donc on avait déjà cette crise qui était là. Et puis il y avait cette affaire iranienne où on était encore dans les négociations et nous disions que ces négociations n'ont aucune chance d'aboutir, mais que tout le monde était paralysé par la question. Qu'est-ce qui vient après la négociation? Quelle est l'alternative? Vous voyez, ces trois conflits sont en train de fusionner à cause de la guerre en Ukraine. Vous parlez de renaissance diplomatique, c'est vrai. On en avait déjà parlé ici à conversation. Cette renaissance diplomatique, qui est la fin du Covid au fond, hein. Elle a commencé à la fin de l'année dernière. Vous vous souvenez que novembre a été, on avait dit, c'est un tournant de la diplomatie. On avait Xi Jinping. Qui était allé juste quelques semaines avant à Samarcande pour rencontrer Poutine, la première fois qu'il sortait de Chine depuis 3 ans. Ensuite, il est allé à Bali, il s'est vu avec Biden, ils ont fait une sorte de compromis plutôt positif. Et au fond, à Bali, la plupart des pays qui étaient là avaient une seule idée en tête, comment reprendre la croissance économique, reprendre les affaires, parce que tout le monde est très inquiet de l'économie post-Covid. Donc on voit que ça redémarre quand même. Donc ça, c'était essentiel. Et puis, bon, arrive la guerre en Ukraine. Et donc maintenant, le nouveau ballet diplomatique, il est lié à cette guerre en Ukraine et à ses conséquences. Et la conséquence principale, c'est cette fusion des trois conflits. Et donc, puisqu'il y a fusion de ces trois conflits, l'apparition de ce qu'on pourrait appeler des camps. On voit que le camp occidental est devenu en fait le camp des démocraties, puisqu'il inclut aussi des pays asiatiques comme le Japon, la Corée, les pays d'Asie du Sud-Est, qui font partie des démocraties mais qui ne sont pas occidentaux. Donc c'est le camp des démocrates. Et en face, il semble qu'apparaisse une sorte de camp des autocrates avec la Russie, la Chine et l'Iran, faisant comme un axe, comme une forme d'alliance sur lesquels déjà beaucoup de commentateurs disent que c'est un nouveau axe du mal. Etc. Voilà, donc c'est l'apparition, la fusion des trois conflits, l'apparition de deux camps.
Mais alors, Daniel, ces deux camps dont vous nous parlez, est-ce qu'ils ont une vocation à conduire à une constitution de blocs, des blocs qui nous feraient penser, par conséquent à une nouvelle guerre froide?
C'est vraiment la bonne question. Et on voit que les avis pour l'instant sont partagés. On est au milieu de ce qui se passe. Qu'est-ce qui encourage à penser que c'est ça? Ben, c'est le fait que la guerre se consolide. Quand on a vu Biden à Varsovie et Poutine à Moscou, ils ont tous les deux défié l'autre dans un face-à-face qui disait « nous irons jusqu'au bout ». Quand vous avez deux puissances comme ça qui disent qu'on est jusqu'au bout, c'est du dur. C'est du dur. Ce qu'on a aussi semblé voir apparaître, c'est que la Russie arrivait à se rapprocher de la Chine. En tout cas, la Chine est assez ambiguë sur l'aide qu'elle apporte à la Russie. Il y a une aide économique très forte. C'est la Chine qui achète tout ce que la Russie ne vend plus à l'Occident. Et puis il y a aussi l'Iran qui fournit des armes à la Russie, donc et puis Raïssi qui va à Pékin, donc ce triangle Russie, Chine, Iran, il a des réalités. Et donc l'apparition de ce bloc-là, il a l'air sérieux. Quant au bloc des démocrates, oui, autour de l'OTAN. L'OTAN qui a pris une vie nouvelle, il y a véritablement un rassemblement de toutes les démocraties autour des États-Unis d'ailleurs, hein. Les États-Unis sont le leader incontesté. Donc voilà ce qui donne un petit peu cette impression de la formation de blocs et d'une guerre froide qui pourrait d'ailleurs dégénérer. Mais alors, qu'est-ce qui empêche de dire ce sont deux blocs? Le premier, c'est que on continue à hésiter, on se posait des questions, on n'est pas sûr que la Chine ait envie de livrer des armes à la Russie. Elle n'a pas envie de se laisser entraîner dans un conflit qu'elle n'a pas voulu, qui ne correspond pas à ses ambitions. Les Occidentaux aident, sont unis autour de l'aide de l'Ukraine, mais ils sont aussi unis autour de l'idée qu'ils ne veulent pas être co-belligérants. Ils ne sont pas en guerre contre la Russie. Vous voyez, on est encore là. Quant à l'Iran, on sait que la négociation s'est terminée. Et donc, c'est quoi l'alternative? C'est évidemment la confrontation sous différentes formes, mais elle n'a pas encore pris corps. Ces trois formes d'hésitation dans les trois conflits fait que on peut pas encore dire qu'on est vraiment dans une constitution de bloc, d'autant plus que à l'intérieur de ces deux blocs, les échanges économiques continuent. Si vous voulez, entre le camp occidental et la Chine, c'est business as usual.
D'accord, mais Daniel, on voit quand même que non seulement on parle de guerre froide, mais on commence également à entendre aussi beaucoup parler de troisième guerre mondiale. Alors, quelle est la réalité finalement de ces réflexions?
Bon, écoutez, on ne peut pas empêcher les commentateurs de parler ce qu'ils veulent, et c'est assez tentant de parler de route vers la guerre mondiale, parce que au fond, on est encore tout étonné que depuis 1945, il n'y ait pas eu de conflit mondial. Il y a eu des conflits terribles, guerre de Corée, guerre du Vietnam, qui n'ont jamais dégénéré en guerre mondiale. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ça ressemble tellement à ce qui se passait dans les années 30, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on se dit ce qui se passe maintenant est en train de reproduire le schéma. Bon, qu'est-ce qui empêche de dire qu'on va avoir une Troisième Guerre mondiale? C'est deux choses. La première, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale, les grandes puissances sont équipées d'armes nucléaires. Donc la réflexion sur les guerres n'est plus la même, parce qu'il existe une dissuasion nucléaire qui est la réalité. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que en réalité, on est déjà dans une troisième guerre mondiale, mais c'est une guerre mondiale économique. Donc troisième guerre mondiale, elle a une autre forme. C'est plus des batailles, c'est une guerre économique. C'est surtout une guerre technologique à base d'intelligence artificielle et de cyber. Et celle-là, elle est en plein dedans. On est en plein dedans. La guerre des semi-conducteurs, c'est une guerre sur l'intelligence artificielle et le cyber. Donc on y est déjà. Moi, je voudrais terminer, si c'est le moment de conclure, en disant que moi, mon espoir pour qu'on n'aille pas trop loin, même dans une guerre mondiale technologique, c'est la chose suivante. Prenez ce triumvirat, Russie, Chine, Iran. Chacun a des objectifs différents. La Russie veut revenir à la Russie des tsars et récupérer du territoire. L'Iran veut sa bombe et surtout essayer de dominer le Moyen-Orient, etc. Mais qu'est-ce que veut la Chine? La Chine, elle veut s'inscrire dans un nouveau paysage mondial. Elle veut reconstruire l'ordre mondial où la Chine serait décisionnaire en même temps que les États-Unis et d'autres sur la définition du nouvel ordre mondial. Et donc, très vite, la Chine, à mon avis, va comprendre que la guerre en Ukraine et que la vision de Poutine et que la vision de l'Iran avec sa bombe atomique sont des obstacles à la réalisation de l'ambition chinoise. En fait, les vrais ennemis aujourd'hui de la Chine, c'est pas l'Occident. C'est la Russie et l'Iran. Donc voilà, je pense qu'on peut parler de la Troisième Guerre mondiale pour dégonfler un petit peu les peurs, mais je pense que il y a un optimisme à avoir, mais pour l'instant, évidemment, on n'en est pas là parce qu'on est encore au milieu de la guerre.
On aura bien évidemment, Daniel, l'occasion de reparler tout ça avec vous. Merci beaucoup, Daniel Haber, pour vos précieux éclairages. Et comme chaque fois, très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.
Au revoir.